perçu, et c'est un aveu que je vous fais, Yvonne et moi, à notre corps défendant, on regarde des séries maintenant. Des séries télé, j'ai presque honte de le dire, mais et on s'est aperçu que selon les épisodes, il y avait parfois déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, et parfois, dans la même série, il y avait moins de 16. J'ai jamais vu moins de 6 ou moins de 8, donc c'est 12, 16. Puis il y a plus haut, mais ça c'est autre chose. Et dans notre série sur l'Exode, c'est une série un peu violente quand même. Et je ne sais pas à quel panneau mettre, moins de 12, moins de 16 ce matin. Mais bon, je rappelle les faits. L'Exode, qui veut dire la sortie du pays d'Égypte avec Moïse. Et j'ai perçu dans quelques chants, il y avait des allusions. Il fend la mer, etc. Bravo Sylvie. Et qui nous parle de la sortie d'Égypte, de ce nouveau peuple nouvellement formé, le peuple d'Israël, pour l'instant c'est encore un peu tribal, des tribus, mais c'est une conscience nationale qui est en train de naître. Alors on a vu la dernière fois, c'était il y a un mois presque, toutes les reprises au cinéma, mais l'Exode est un récit tout à fait fondamental. Une sortie d'Égypte pour Israël, mais une sortie aussi pour nous, d'un certain esclavage. Let my people go, on dit les négros spirituels. L'Exode, un récit fondamental, avec la citation d'un rabbin Gamaliel, selon le Talmud, qui dit « Tout fidèle a le devoir de se considérer comme ayant été personnellement sorti d'Égypte. » Tiré d'Égypte, tout fidèle, et nous sommes de ces fidèles. Nous avons la foi d'Abraham. Alors, le premier chapitre, nous l'avons vu, c'est une histoire qui commence avec des femmes qui sont très courageuses et qui sont désobéissantes par rapport au pharaon, par rapport à des mauvais gouvernants qui incitent à la violence et au crime. Mais ces deux sages-femmes, sans le vouloir peut-être, mais ou sans le savoir peut-être, mais en le voulant certainement, se mettent au service de Dieu, du Dieu de l'Alliance, du Dieu qui a fait des promesses à Abraham et qui tient ses promesses. Et elles rentrent pleinement, dangereusement, mais en obéissant à Dieu dans ce projet d'alliance de Dieu pour son peuple, promesse d'un pays, promesse d'un peuple, promesse aussi d'être que ce peuple sera en bénédiction pour toutes les nations. Il y a toute une histoire du salut, toute une histoire de rédemption, toute une histoire de témoignage. Et ces deux femmes font, et c'était le titre il y a trois semaines, un métier tout à fait essentiel pour le développement de l'histoire du salut, de l'amour de Dieu. Et elles permettent la mise au monde d'un certain Moïse, tiré des eaux, messa, messé, la particule messé, tiré de, Ramsès, tiré de Ra, le pharaon Ramsès, tiré du dieu Ra, du dieu égyptien Ra. Et puis il est mis déposé dans un petit berceau, un panier d'osier avec un petit peu de bitume et lâché dans le Nil. Et là, il est recueilli. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot pour le berceau de Moïse, enfin le berceau, le panier en osier, c'est le même mot que pour arche de Noé. Le mot apparaît deux fois dans la Bible, et c'est le mot pour le berceau de Noé et pour de Moïse et l'arche de Noé, un signe d'alliance, un signe de salut. Il est recueilli par la fille de Pharaon, mais nourri par sa mère biologique. Une fois sevré, c'est-à-dire vers 3 ans, il rentre dans la vie égyptienne, dans l'enseignement égyptien dispensé par les prêtres pour les nobles. Et là, Moïse, et c'est la société égyptienne, une des sociétés les plus avancées de l'époque, et là il va étudier la théologie égyptienne, polythéiste, les mathématiques, la médecine, l'astronomie. Moïse fait en quelque sorte le lycée Henri IV à Paris, puis prépare école normale sup, enfin prépare réussie école normale sup, Hippocagne, Polytechnique et HEC pour faire un beau pédigré, Moïse. D'ailleurs, quand la fille de Pharaon voit pour la première fois le bébé, elle dit qu'il était beau. Il était beau. Et c'est un beau bébé. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est le mot bon, beau, tof, qui est aussi utilisé dans Genèse 1. Et Dieu vit que c'était très bon. Que c'était bon. Il y a tout dans ce Moïse. Il y a un bel avenir qui s'ouvre à lui. Mais, là c'est un cliffhanger, mais tout ne tourne pas comme prévu. On lit ensemble, le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort. Il le massacre. Le terme hébreu est très fort. Et il enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur. Il comprit que l'affaire s'était ébruitée. Effectivement, le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse, mais celui-ci prit la fuite. Pour ce deuxième épisode de la série sur Moïse, je l'ai appelé « Mais Moïse, qu'est-ce que tu fabriques ?» Qu'est-ce que tu fiches ? Parce que tout commence assez mal, en fait. Hein. Moïse a 40 ans, nous dit l'Épître aux Hébreux, le Nouveau Testament, et il commence son service de Dieu, ou accomplir son destin, sa mission. Alors, est-ce qu'il en a conscience ? On ne sait pas trop. Hein. Mais il commence en tout cas. Il apparaît adulte et il tue un homme, et il massacre un homme. Et il, par un acte de violence assez incroyable. Et on note le processus, c'est écrit dans le texte, il regarde d'un côté ou de l'autre, personne ne me voit, et il tue l'homme. Et il le cache dans le sable. C'est d'ailleurs Moïse. Il a conscience de mal faire. Il regarde à droite et à gauche. Et de faire le mal. Alors on peut se demander les raisons de ce mauvais départ. Et la première de ces raisons, alors c'est que Moïse, et là je parle d'un bébé humain, ben oui, parce qu'on a l'image de Moïse dans son berceau, là tout va bien là. Mais c'est un bébé humain comme les autres, c'est-à-dire. Que quand on tient des bébés dans les bras, on est plein d'espoir et plein d'attente. Oh, ce bébé! Et puis vers 2 ans, ce bébé, si mignon, va dire un mot avec 3 lettres. Les 5 lettres, c'est pour plus tard. Mais les 3 lettres, c'est vers 2 ans. Il va dire non. Il va dire non. Je ne veux en faire qu'à ma tête. Il y a dans le cœur de tout être humain, de tout bébé humain, et plus tard quelque chose qui le pousse à affirmer sa volonté. Et ce quelque chose nous accompagne toute la vie. J'ai une histoire, c'est l'histoire d'Adrienne, 4 ans et demi, et Nathan, son frère, 5 mois. Et la mère de ces 2 enfants dit « Adrienne, je t'avais défendu de porter ton petit frère, c'est trop dangereux. » Et Adrienne lui répond « Mais je ne l'ai pas porté, maman. » Et la maman d'Adrienne lui répond « Alors, comment se fait-il qu'il est arrivé dans la chambre, dans ta chambre ? Mais maman, je l'ai roulé, simplement. Je ne l'ai pas transporté. Je l'ai roulé. Il y a dans le cœur de l'être humain une grande capacité à contourner les règles et à faire comme bon lui semble. Qui veut la fin, amener son frère, veut les moyens, le rouler. Une sorte d'entêtement, obstination, testadura, on disait dans le Béarn. Un auteur du nom de Jack Kuacek parle du syndrome de Superman, de cet homme, de cette femme, hein, qui se fait lui-même, et un syndrome qui frappe surtout, je cite, « ceux qui ont en eux des forces émotionnelles et physiques supérieures à la moyenne et qui ne font confiance qu'en eux-mêmes ». Il poursuit en disant que ces gens-là ratent une occasion unique dans leur vie. C'est vivre la dépendance par rapport à Dieu. Vivre dans la dépendance de Dieu. Et là, c'est le cas de Moïse. Il rate l'occasion de vivre dans la dépendance de Dieu et il se prend pour, allez, Charles Bronson, le justicier dans la ville, 1978, je crois. Charles Bronson, qui veut faire sa justice, établir la justice à New York, mais à sa manière. On pourrait parler aussi, pour les raisons de ce mauvais départ, peut-être un mal-être chez Moïse. Alors, parce que il est né d'hébreu, mais il a été éduqué en Égypte. Il a, semble-t-il, une double appartenance, peut-être un problème d'identité, un problème d'allégeance. Qui suis-je et dans quelle étagère, disait quelqu'un. Je lisais aussi quelque part qu'on pouvait penser qu'il ne devait pas rester grand-chose de son éducation hébraïque. Après trois ans dans l'éducation égyptienne, là, il ne doit pas rester grand-chose de ses premières trois années. Il ne sait rien du peuple. Il ne sait rien du peuple hébreu et de la foi qu'il veut pourtant défendre. Alors c'est peut-être tout cela en même temps, mais en tout cas, Moïse vit un échec retentissant, il tue un homme, et en plus, il est rejeté par le peuple qu'il voulait défendre. Ça part très mal, cette histoire. Et puis, il prend peur, et il s'enfuit. Et là, c'est une émotion, la peur et la fuite, qui fait partie de notre panoplie humaine, n'est-ce pas, un binôme qu'on connaît bien. Peur et fuite. Qui n'a pas peur et qui n'a pas cherché à fuir. Et on peut penser à toutes nos fuites, parfois très intérieures, parfois ce sont des fuites en avant. Moi je vois souvent, peut-être même dans ma vie, mais des fuites en avant. Ce que l'on veut fuir, on y va en plein dedans, jusqu'à l'extrême. Des fuites en avant, parce qu'on a peur. Moïse fuit, il fuit ses deux cultures, Égypte, hébreu, et tout ça parce que Moïse a voulu faire les choses à sa manière, ou on va dire à l'instinct, et Dieu semble assez loin de ses préoccupations, alors que pour les deux sages-femmes, il nous est bien dit qu'elles révèrent l'Éternel, qu'elles craignent l'Éternel, dans une sorte de respect et d'obéissance, pas de peur phobique, mais de respect, d'obéissance, voire même d'amour. Il n'est rien dit sur Moïse, il ne révère pas l'Éternel. Il est loin de tout ça. Pour l'instant, Moïse n'en fait qu'à sa tête, et on se demande ce qu'il fabrique. Alors, il y a quand même, semble-t-il, des bonnes intentions. Il semble qu'il en ait conscience ou pas, on ne sait pas, mais il a envie de défendre son peuple. Et il y a des personnes, je vous lis quelques citations, c'est intéressant, parce que le Nouveau Testament en parle d'une manière assez positive, même des débuts de Moïse. L'amour de ses frères, amour réel et sincère, Hébreux 11, 25, vous savez, la panoplie des héros de la Bible, le porte d'abord, non pas à servir, mais à régenter. Ok, il aime ses frères, mais il commence par les régenter au lieu du service, au lieu de les servir. Et puis la deuxième, son action était généreuse. Et le Nouveau Testament l'envisage. Acte 7, 25, c'est le discours d'Étienne où il parle de Moïse. Et Hébreu 11, 25, on en a déjà parlé. Mais Moïse doit apprendre à agir non seulement pour le Seigneur, mais par le Seigneur. Et ça, je trouvais ça assez éclairant et inspirant. Tu veux agir pour le Seigneur ? Ouais, ouais, ouais. Mais fais-le par lui aussi, en défendant les valeurs du royaume, les vertus cardinales du Seigneur, la foi, l'espérance, l'amour, les fruits de l'esprit, etc. Et pour le Seigneur, mais fais-le aussi par le Seigneur. Et Moïse, là j'ai souligné le verbe « apprendre » en jaune, et Moïse va apprendre. Lecture du deuxième passage, il se rendit, après avoir fui l'Égypte à cause de son meurtre, il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais des bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre. Il fit boire leurs troupeaux, oh là là, la chaleur. Quand elles revinrent, vers Réuel, leur père, celui-ci leur demanda, comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui? Un Égyptien nous a défendus, répondent-elles, contre des bergers. Et même, il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. Où est cet homme à présent? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le chercher pour qu'il vienne manger chez nous. Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora en mariage. Elle lui donna un fils qu'il appela Guershom, émigré en ces lieux. Car, dit-il, je suis un émigré dans une terre étrangère. On ne sait pas trop pourquoi Moïse va à Madian, mais il se passe quelque chose là. Et deuxièmement, après, mais Moïse, qu'est-ce que tu fabriques? Que fait Dieu pour Moïse? Eh bien, il va agir à Madian. Il y a cette rencontre avec ces femmes madianites au bord du puits. Il se passe plein de choses dans la Bible au bord d'un puits. Tu en as parlé, Sylvie, la Samaritaine, et aussi Rebecca et le serviteur d'Abraham qui vient pour marier Isaac. Ça se passe au bord d'un puits. Mais il semble que cette rencontre ne soit pas tout à fait fortuite, ou alors c'est un hasard avec un grand D majuscule à la fin du mot hasard. Et mais le contraste, en tout cas, est assez saisissant. La prise de contact avec la population locale, madianite, les femmes, est intéressante. Moïse est encore un petit peu, quelque part, le justicier dans la ville, parce qu'il va se débrouiller pour que les bergers s'en aillent et que les femmes madianiques puissent puiser de l'eau. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il le fait, mais ça, il le fait sans aucune violence. Justicier, mais sans aucune violence. Et il m'a même très loin, il va puiser l'eau pour des femmes qu'il ne connaît pas. Alors c'était peut-être un moyen de... Mais c'est à noter quand même. C'est le prince d'Égypte. Il sert des femmes à boire. Il n'était pas obligé de le faire, mais il le fait. On y voit quand même un changement. Déjà, peut-être que Moïse devient humble. Alors, où est Madian? Qui sont les Madianites? Alors, les Madianites, c'est un nom collectif pour les nomades. Localisation très incertaine, mais ils sont dans la péninsule du Sinaï, au sud de la Palestine, sud-est même de la Palestine, autour du mont Horeb, autour du mont Sinaï. Des nomades qui bougent sans aller très loin non plus. Ils sont là. Et les Madianites, c'est intéressant, mais Madian est un fils d'Abraham qu'il a eu avec Kétoua. deuxième femme d'Abraham, sans compter Agar. Ils sont pas de la famille, famille éloignée, mais ils sont fils d'Abraham. Puis Madian, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, c'est un désert, une zone désertique. Et il semble que dans le désert, Moïse y trouve son compte. Moïse change. Une genre de traversée du désert pour Moïse, parce qu'il va y rester 40 ans avec les Madianites. La note de la Bible du Semeur dit « Il resta 40 ans dans cette région stérile et désolée qui contrastait avec le cadre dans lequel il avait grandi. » Stérile et désolée. Une zone stérile et désolée. Désertique. Mais en même temps, il semble que ça soit une zone ou une période très féconde dans la vie de Moïse. Et il va y passer un certain nombre d'années, 40 ans, dans ce désert du pays de Madian. Ça nous fait penser aux 40 ans dans le désert pour les Israélites qui vont arriver et qui sont perçus comme un report de promesse quand même, ces 40 ans dans le désert que le peuple hébreu va passer. Mais en même temps, ou presque comme une punition, mais en même temps, ça pourrait presque être une bénédiction, ce désert. Les prophètes qui ont suivi après ont une certaine nostalgie du désert. On était bien dans le désert, il semble avoir oublié tous les murmures des Israélites dans le désert. Mais les prophètes, le désert, c'est pas si mal. Près d'Alès, près d'Anduze, il y a le musée du désert. Les camisards, qui ont subi les persécutions, les protestants, les huguenots. Le désert, ouais, désert, aride, mais fécond. Mais des déserts où on peut trouver du ressourcement, même si dans un désert, c'est le manque d'eau qui apparaît. On y est ressourcé. Malgré l'insécurité du désert, un lieu de rapprochement, un lieu de communion. Et sans verser dans le triomphalisme, ni dans le dolorisme, on peut bénir nos déserts. On peut, dans le sens du mot bénir, dire du bien de nos traversées du désert. J'ai eu ici, certains s'en souviennent très bien, une période un peu désertique. Personne ici n'y était pour quelque chose. Une période de grande dépression, de grand désert. Quand je le raconte à certaines personnes avec ma femme est là, je dis, j'ai eu un petit coup de mou. Et je sens que ma femme dit un petit coup de mou. Je n'arrivais plus à lire ma Bible, sauf les psaumes. Et je lisais les psaumes les plus noirs. J'étais dans le gouffre, Seigneur. Et tu m'as relevé. Le psaume des profondeurs, de profondis aussi. Et je ne pouvais prier que le Notre Père. Mais en boucle. Mais cette période désertique, abyssale, a donné des fruits inattendus. Je peux parler avec des personnes qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu aujourd'hui, et j'ai l'impression de pouvoir les encourager un peu plus, les personnes qui vivent la dépression. Oui, les déserts que nous traversons dans nos vies portent des fruits. Les déserts sont féconds par la grâce et pour la gloire de Dieu. Et Moïse traverse un désert, là. Et plus qu'un désert, il y trouve aussi un foyer. Parce que en termes de relations, le pays de Madian n'est pas si désertique que cela, c'est pas un désert de relations, il y trouve un foyer, une épouse, Séphora, qui a l'air vraiment sympa, un beau-père, Jéthro. Et il a un fils qui est prêtre à Madian, il a un fils, Gershom, et il en aura un autre, Eliezer, qui veut dire « Dieu est mon secours ». Il va l'appeler comme ça. Un foyer. Moïse trouve un foyer, un endroit où on prend racine, où on peut dire « Ici, c'est chez moi ». Alors, il y a une discussion sur le temps employé en hébreu quand il dit à un moment « Voilà, je suis un immigré dans un pays étranger ». C'est ce qu'il dit. J'ai lu un livre et qui semblait dire, vous savez, les temps en hébreu, c'est un petit peu différent, mais qui traduisait, parce qu'il le pouvait grammaticalement, par un « j'ai été », c'est un plus que parfait ça, « j'ai été », hein, c'est un passé composé, non ? Ouais, passé composé, plus que parfait, passé composé. « J'ai été immigré dans un pays étranger ». Ça veut dire « j'ai été », ça veut dire qu'il ne l'est plus. Ça veut dire, ça voudrait dire qu'il a trouvé son foyer. J'ai été, maintenant, je suis plus là. J'ai trouvé mon rocher, mon assise, mon identité, en quelque sorte. Et on a entendu quelques témoignages la semaine dernière pour le baptême, qu'ils ont trouvé un endroit, un lieu, en Christ, pour vivre. Alors, on pourrait quand même laisser le présent. Je suis un immigré dans le pays étranger, comme Abraham l'a dit quand il était entouré d'Hittites et qu'il cherchait un tombeau pour sa femme Sarah. Je suis un étranger parmi vous. Mais c'est pas anodin qu'Abraham parle d'être un étranger, un immigré, dans l'attente d'une terre promise selon la promesse. L'apôtre Pierre nous parle des chrétiens comme des résidents temporaires sur la terre, des gens de passage, des pèlerins en marche vers un monde nouveau, pas simplement en attente de ce monde nouveau, dans une salle d'attente, mais tout à fait actif dans son avènement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais cette question d'immigré pose la question de la patrie. Et il me semble que Moïse, en disant cela, « Je suis un immigré dans une terre étrangère », eh bien, ça dit beaucoup sur Moïse, sur l'état dans lequel il se trouve, sur la réflexion qu'il a sur lui-même, sur « Qui suis-je vraiment ? Est-ce que ma patrie n'est pas celle qui a été promise à Abraham ? Est-ce que je ne suis pas un immigré comme Abraham ? Comme tout le monde, en fait. Et moi, j'aime cette parole qui revient plus tard dans le Lévitique et le Deutéronome. Accueillir l'immigré comme vous avez été immigré en Égypte. Et puis, il y a... Le pays de Madian devient un lieu d'apprentissage. On l'a lu tout à l'heure, j'ai buté sur le mot. Réuel, en fait, c'est la même chose que Jéthro, qui est prêtre de Madian, et qui se révèle être un homme de Dieu. On le voit après au chapitre 18, Exode 18, qui va offrir des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Il va encourager aussi Moïse. Réuel, ça veut dire l'ami de Dieu. Et donc, Moïse est accompagné par un ami de Dieu et il apprend la foi de ses parents, il apprend la foi des Israélites, il réapprend la foi en un Dieu unique qui fait alliance avec les hommes comme il l'a fait avec Abraham. Un lieu d'apprentissage, il apprend sa foi avec Réuel Jéthro. Et puis il y a aussi, et quand on lit le chapitre 3 au verset 1, il est berger. Pendant 40 ans, il s'occupe des troupeaux. Moi, si j'étais la mère de Moïse, je dis, t'as fait HEC et tu deviens pasteur. Il devient berger. Il est prince d'Égypte et il devient berger. Et là, il apprend non seulement l'humilité, mais aussi l'apprentissage d'être un berger, comme le sera David, berger puis roi, comme l'est notre souverain berger, Jésus, dans l'évangile de Jean, un bon berger. Mais là, il apprend pas le métier d'être berger, il apprend sa vocation de berger, à conduire un peuple. Et d'ailleurs, dans les psaumes, on parle de « merci, on loue Dieu parce qu'il a conduit son peuple comme un troupeau à travers la mer par l'intermédiaire de Moïse ». Moïse est un berger et il apprend son « un jour, Moïse conduira Israël comme un berger conduit ses moutons ». Ainsi, il se prépare à cette grande tâche en étant un vrai berger qui conduit de vrais moutons, pour l'instant. Un lieu d'apprentissage. Est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu était en train de vous apprendre quelque chose ? On n'en parle pas souvent, mais je trouve que c'est un beau mot, pas seulement un concept, une belle vérité, c'est la pédagogie de Dieu. Dieu nous apprend toujours quelque chose. Dieu est pédagogue. Tous les lieux dans lesquels nous sommes sont des lieux d'apprentissage. Toutes les périodes de notre vie sont des périodes d'apprentissage où on apprend à vivre avec lui, dans sa dépendance. Dieu est un pédagogue hors pair. Et la question est de savoir si on est réceptif à la pédagogie de Dieu. Moïse, semble-t-il, l'était, et tout d'un coup, il semble qu'il soit prêt. Et on verra plus tard, la fois prochaine, le chapitre 3, on va dire, la question commence, l'affaire commence vraiment. Alors c'est un peu long, 40 ans de préparation dans le pays de Madian, mais Dieu n'est pas du genre pressé. Et vous l'aurez expérimenté dans votre vie chrétienne aussi. Dieu n'est pas du genre pressé. Mais le récit lui-même semble nous dire que Moïse est prêt et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et en fait, c'est la conclusion. Point 3, on y arrive. Beaucoup de temps passa, ouais, 40 ans, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il vit les Israélites et prit leur situation en considération. Dieu se souvint, bérite, c'est l'alliance. Dieu se souvient de son alliance. C'est la première fois dans l'Exode, mais c'est un leitmotiv qui va parcourir non seulement l'Exode, mais aussi tout le Pentateuque, les cinq premiers livres. Dieu se souvient de son alliance. Alors, c'est pas comme si Dieu avait oublié quoi que ce soit, ou qu'il était passé à autre chose et qu'il y reviendrait. Non, se souvenir, pour Dieu, ça veut dire il tient compte de son alliance et qu'il est prêt lui aussi à passer à l'étape suivante dans l'accomplissement de ses promesses. Il se souvient de son alliance et on va y aller. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les derniers mots de ce passage du chapitre 2, et ça a été très bien traduit par la Nouvelle Bible Seconde, Dieu regarda les Israélites et il sut. Termine comme ça. Le texte hébreu termine comme ça. Dieu regarda les Israélites et il sut. Et il sut leur situation, et il sut leurs souffrances, et il sut leurs épreuves, et il comprit, il est plein de compassion. Il y a le rappel de l'alliance, il se souvint de leur alliance, mais aussi cette sensibilité de Dieu à l'égard de leur situation. Et comme dans la suite de l'histoire, Dieu voit, Dieu sait, Dieu est plein de compassion à les voir pris sous le joug des Égyptiens en esclavage. Il est pris de compassion. Dieu vit les Israélites et il sut. Dieu te voit et il sait. Et le cœur de Dieu, les entrailles de Dieu sont remuées par ce qu'il voit dans ta vie, la souffrance, l'esclavage, les addictions, les mauvais mécanismes de défense. J'aime ce mot en grec, c'est pas pour, mais qui parle d'être ému de compassion comme Jésus l'était Jérusalem, comme il était dans ses rencontres. Jésus fut ému de compassion. C'est le verbe splagnizomai. Littéralement, les entrailles de Jésus qui se remuent. Il est ému de compassion, un plan d'alliance, un plan de rédemption, un plan de délivrance, oui, mais en même temps, une grande compassion pour ces personnes qui vivent dans leur quotidien, et c'est parfois difficile. Un grand amour de la part de Dieu pour des gens comme vous et moi, pour des hommes et des femmes, la chesed de Dieu, c'est l'amour de Dieu en hébreu, l'agapé de Dieu pour le Nouveau Testament en grec. Voilà le fil rouge de cette histoire. L'histoire du salut, l'histoire de la délivrance, l'histoire de la rédemption qui est à continuer dans ta vie, dans nos vies. Un commentateur disait, la Bible est l'histoire de Dieu nous ramenant à la maison. Quelques questions pour la route. La route de Madian, ou vers le pays de Madian. Première question, y a-t-il, et qui reprend un petit peu cette histoire de Moïse et ce chapitre Dieu, y a-t-il un domaine de votre vie où vous êtes particulièrement tenté de n'en faire qu'à votre tête? Quelle est la période de votre vie où vous avez le plus appris? Avez-vous traversé un désert, ou peut-être êtes-vous en train d'en traverser un? Qu'en pensez-vous? Sur quoi se fonde votre identité aujourd'hui? Quelle est votre patrie? Qu'est-ce que ça change ou pourrait changer?